C'est ça qu'on veut célébrer aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Je regardais cette semaine, puis je regardais ma semaine comme un peu plus relax, parce que mon sermon était déjà préparé pour cette semaine, que je croyais. Parce que vous vous souvenez, la semaine passée, pour quelques raisons, j'avais pas les notes de mon message, et puis la mémoire est trop... minime maintenant pour prêcher mes sermons sans mes notes. Alors, mais Dieu a permis la semaine passée que je puisse prêcher sur ce passage qu'on a regardé, hein, sur sur Habacuc et passage que j'avais prêché il y a 2 années, alors j'avais mes notes pour. Alors je me suis dit, bien cette semaine, je vais pouvoir relaxer, mais je n'ai pas envie de préparer un message, mon message est préparé pour ce matin. Mais vendredi, j'ai dit, ah, dimanche, c'est la fête des mamans. Alors comment qu'on peut pas parler des mamans lorsque c'est la fête des mamans. Et donc, il faut que je parle des mamans. Et je vais parler des mamans, mais on va parler des papas aussi. Et ça va être quelque chose de bien. Alors, le titre de mon message ce matin est pour les mamans. Puis on va le voir un peu plus loin aussi pour des papas. Et je suis persuadé qu'il y a plusieurs pasteurs ce matin dans nos églises et puis dans les églises en général qui vont prêcher, parce que je l'ai entendu souvent dans ma vie d'enfant de Dieu et dans différentes églises, les fameux passages comme Proverbe 31, hein, qui parle de la femme vertueuse, et puis qui dit, voici mes dames, comment que vous devriez être vertueuse. Et puis, ou parler des grandes dames de la Bible qui ont accompli des grandes choses, des choses extraordinaires. Et puis moi, j'irais, eh bien, ne les écoutez pas. Parce que si vous les écoutez, ça va vous décourager. Parce que vous allez réaliser que vous n'êtes pas si vertueuse que cela. Que vous n'êtes pas comme cette femme qui est décrite dans Proverbe 31. C'est un beau proverbe, un proverbe fantastique. Et si vous vous souvenez, c'est là-dessus que j'avais prêché l'année passée, dans la fête des mères. Mais je ne l'avais pas pris comme une femme vertueuse que vous devriez être, mais je l'avais pris comme c'est un passage qui s'adresse à l'Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ, et l'épouse de Jésus-Christ doit être vertueuse, selon le plan de Dieu. Et d'ailleurs, tout le livre des prophètes, pas des prophètes, mais des proverbes, nous parle vraiment de la sagesse qui nous conduit, la sagesse qui nous donne la manière de vivre. Là. Alors, on veut se sentir à la hauteur, alors on veut amener, on veut méditer sur la parole de Dieu qui va nous encourager et qui va nous stimuler à se rapprocher de Dieu et à devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est cela qu'on a besoin de faire. Et vendredi, lorsque j'ai commencé à feuilleter au travers de la Bible, pour trouver des passages, qu'est-ce que je devrais amener pour ce matin? Et en feuilletant la Bible, je suis tombé sur un verset qui m'a surpris un peu. C'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il est en train de faire ses salutations. comme qui fait d'habitude des longues salutations. Et ici, l'apôtre Paul, dans le chapitre 16 aux Romains, il dit ceci. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Alors, ça m'a surpris parce que j'ai commencé à réfléchir, parce que vous savez, quand on lit la Bible, on passe sur des versets sans s'arrêter. Et tout à coup, celui-là m'a surpris quand il dit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne. » Et on sait que la mère de Rufus n'est pas la mère de Paul. Et puis, nous savons aussi que qui est Rufus, parce que l'Évangile nous dit qu'il était le fils de Simon de Cyrène, hein, qui portait la croix de Jésus lors du dernière étape du douloureux voyage là du Vendredi Saint de Jésus-Christ. Alors cela signifie que Simon probablement rentré chez lui cette journée-là après cette expérience extraordinaire de transporter la croix Jésus-Christ, probablement qu'il est rentré chez lui comme étant un homme changé. Et puis il a probablement partagé le pouvoir de ce moment avec son épouse, qu'il a probablement partagé aussi avec ses fils, Alexandre, et puis Rufus. Alors c'est ce que Marc 15, verset 21 nous dit ici. Alors je trouve cela émouvant dans un sens de la manière qu'il nous est partagé ici, de réaliser que Simon a probablement parlé de sa rencontre intime avec Jésus-Christ à son épouse, et que les deux garçons, Alexandre et Rufus, l'ont probablement aussi entendu. Et puis dans ce remarquable croisement d'amour, de la foi et des circonstances, elle aurait pu partager ce témoignage avec Paul aussi. Il y a cette possibilité-là. Alors, comment ils se sont rencontrés? Comment la mère de Rufus aurait pu rencontrer Paul, et dans quelles circonstances cette coïncidence serait produite? Alors, nous ne le savons pas. Et probablement qu'on ne saura jamais si bon, parce que la Bible ne nous en parle pas. Mais nous savons que Paul connaissait la mère de Rufus parce qu'il envoie ses salutations comme étant sa mère aussi. Mais imaginez ceci. Elle était comme la mère du grand apôtre. C'est pas n'importe qui, le grand apôtre, le grand évangéliste de tous les temps, Paul de Tarse, a peut-être appris les derniers moments de la vie de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, de l'épouse de l'homme qui a porté la croix du Seigneur Simon de Cyrène. Alors imaginez, possibilité. Alors, elle était comme une mère pour lui. Alors, quoi que cela signifiait pour Paul, nous devrions lui être reconnaissants. Alors, on est une maman, alors il y a la maternité. Et la maternité est l'un des rôles humains les plus fondamentaux donnés par Dieu et intégrés dans notre ADN. Alors, c'est pas l'évolution. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et Dieu a donné à l'homme et à la femme d'être en mesure de procréer. Et c'est pour cela que la maternité, c'est le rôle humain les plus fondamentaux que Dieu nous a donné. Et puisque je vais faire une pierre deux coups dans mon message ce matin, alors j'ai mentionné tantôt que je veux parler aussi des papas, mais aussi des enfants. Alors, on a pas beaucoup de papas parmi nous ce matin, mais on va parler des papas quand même. Puis, on n'a pas beaucoup d'enfants, mais on va parler des enfants aussi. On a au moins une qui est avec nous. On est content, Élisabeth, que tu sois là ce matin. On a rêvé d'en avoir deux. D'autres aussi. Alors, nous savons que le papa et la maman, comme parents, jouent un rôle important dans l'élaboration de ce que deviennent leurs enfants, d'un enfant de famille. Dieu place nos enfants sous notre aile pendant plusieurs années, une vingtaine d'années, intenses, que je dirais, parce que c'est des années qui sont vraiment intenses. Et ce que nous faisons avec ces années restera avec eux pour la vie et puis finalement pour l'éternité, dépendamment qu'est-ce qu'on va laisser là. Et la question que nous abordons ici, c'est quel rôle notre influence aurait-elle sur eux? L'influence divine ne peut à elle seule garantir le salut de nos enfants. Même si on a une bonne influence sur nos enfants, c'est pas cela qui va garantir cette influence divine sur eux, qui va garantir le salut de nos enfants. Parce que les enfants ont une responsabilité aussi. Et puis on va voir que ces responsabilités-là viennent aussi. Nous savons que le salut est une œuvre du Saint-Esprit. C'est pas une œuvre humaine, c'est pas une œuvre des parents. Nous sommes des influenceurs. Et comme influenceurs, nous devons être en mesure de les influencer du bon côté. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en eux. Et puis par la suite, les enfants ont cette responsabilité de répondre à l'appel du Seigneur. Mais Dieu utilise des moyens. Il utilise les parents pieux pour aider à produire une progéniture qui est pieuse. Et on va le voir un peu plus loin, la sorte d'influence qu'on laisse à nos enfants, et nos enfants vont nous imiter. Et ça, c'est officiel. On ne peut pas passer à côté. Alors, nous savons tous que les parents pieux, pas pieux, c'est ceux qui appartiennent déjà à Dieu, ceux qui ont déjà donné leur vie à Dieu, peuvent avoir des enfants qui sont impies, comme j'ai mentionné tantôt. Des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur. Et je parle d'expérience ici. On a eu 4 enfants et on en a qui marchent avec le Seigneur et nous en avons qui ne marchent pas avec le Seigneur. On n'a pas cette garantie-là, mais ils ont tous eu la même influence, l'influence d'une vie centrée sur Dieu, centrée sur la parole du Seigneur, mais c'est, malheureusement, c'est pas tout le monde qui va prendre la même démarche. Il y a Ésaü dans la Bible, il y a Jacob. Un marche avec Dieu, l'autre marche pas. Et pourtant, ils ont le même père. Et il y en a plein d'autres aussi. Mais les parents pieux font une différence. Dans Philippiens, l'apôtre Paul va nous dire, 3:17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Alors, on a besoin de donner un modèle. Et on parle des parents, mais ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tous les chrétiens. Ça s'applique à chacun de nous, même si on n'a pas les enfants autour de nous. Alors, combien d'entre nous, en tant que parents, oserions-nous dire à nos enfants, dire cela à nos enfants, « Soyez mes imitateurs. » Si j'aime pas lire la parole de Dieu, si la parole de Dieu, c'est trop dur, trop difficile pour moi à lire, l'Église, c'est trop ennuyant, alors est-ce que je peux dire à mon enfant, sois mon imitateur? Il va devenir mon imitateur, mais pas dans le bon sens. Mais pas comme l'apôtre Paul le dit ici, soyez mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et on va voir dans Corinthiens et dans d'autres endroits que l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Jésus-Christ. C'est toute la différence. Dans Thessaloniciens, chapitre 2, Paul utilise deux figures de style qui nous aident à savoir ce que signifie être des mères et puis des pères pieux. Alors, il dit ici dans ce passage, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors voilà la manière qu'on doit être un modèle pour nos enfants. Et l'apôtre Paul se considère comme un père doit être pour ses enfants. Alors, qu'est-ce que le Père fait? Il exhorte. Et le mot « exhorte » qui est donné dans ce passage-là, dans l'original, c'est « encourager ». Il encourage, il console, il conjure ses enfants de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est la manière qu'on doit encourager nos enfants. Et c'est extraordinaire parce qu'on met cette figure de style devant nous, qu'on regarde ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous donne à propos de la responsabilité qu'on doit avoir. Et l'apôtre Paul, il n'était pas le père physique, mais il dit comme un père pour ses enfants. Alors, c'est comme cela qu'il doit être un modèle pour ses enfants et un modèle autour de lui, un modèle pour les autres qui marchent autour de lui, ses contacts, et ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui a fait une déclaration intéressante sur la différence entre les mères et les pères. Un père puis une mère, c'est différent. On est deux personnes différentes. Alors, cette personne-là, il a écrit ceci. Il dit, les mères ont tendance à se soucier de la sécurité de leurs enfants. Et les pères se concentrent sur la réussite de leurs enfants. Une mère s'inquiète pour des choses comme des soins affectueux. Tandis que les pères poussent durement les enfants parce qu'ils savent que nous vivons dans un monde où l'échec est facile puis le succès est difficile. Alors, chaque père, il va pousser ses enfants, il va essayer de les influencer à sa manière que lui croit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a déjà le modèle qu'il nous est donné. Mais vous savez quoi? Même si la maman et le papa sont différents, les deux sont absolument nécessaires pour élever nos enfants. Et c'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme et la femme comme cela, et puis qu'il a donné le pouvoir d'avoir des enfants. Et on n'est pas des copies collées l'un de l'autre, ou des semblables. Mais on a chacun nos styles de vie. Mais le papa et la maman, même s'ils sont différents, c'est absolument nécessaire pour élever nos enfants et servir le Seigneur. Encore plus, nous sommes parents et c'est pour la vie. C'est pour la vie. Nous, nos enfants sont partis de la maison depuis plusieurs années maintenant. Notre bébé va avoir 33 ans. Oui, il va avoir 33 ans cette année. Ça fait déjà 12 ans d'années probablement qu'il est parti de la maison. Et puis, les autres n'ont encore plus longtemps que lui. Et puis, ils ne sont plus à la maison. Mais nous sommes encore les parents de nos enfants comme lorsqu'ils étaient à la maison. On s'inquiète encore pour eux. On les encourage encore comme s'ils étaient encore à la maison. On les aime comme s'ils étaient encore là. Et on veut voir le meilleur d'eux. Il n'y a rien qui change dans cet aspect. Mais ils sont encore tous nos enfants. Et puis ils ont besoin de nous comme on a besoin d'eux. Maintenant, où est-ce que sont les papas ici ce matin, là? Papa, tu peux devenir un bon influenceur. Et pas juste les papas, mais les grands papas aussi. Pour les enfants, peu importe leur âge. Surtout pour les influencer spirituellement. Et la grande question est de savoir comment devenir un influenceur. Dieu nous a donné un livre extraordinaire dans la Bible, connu sous le nom du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est en effet un manuel de formation pour la vie. Mais tout dépend de la façon de vivre la vie avec sagesse et habileté. Les principes que nous trouvons dans les proverbes sont des sermons dans une phrase, donnés par un père à son fils, de Salomon à ses enfants. Et puis ce manuel sur la vie de cet ancien père est une ressource puissante pour nous aujourd'hui en tant que parents. Alors que Salomon cherche à enseigner et à former ses enfants, Alors, il nous expose, en fait, la vérité sur la manière d'influencer nos enfants. Et le centre de cette influence est résumé pour nous dans Proverbe 4 et verset 7, lorsqu'il déclare ceci. Il dit, « Voici le commencement de la sagesse. » Le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alors, l'intelligence vient avec la sagesse. Et Dieu ne parle pas ici de la sagesse du monde. Il peut avoir de la sagesse dans le monde, mais il ne parle pas de cette sagesse-là. Il parle de la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu, et ça, c'est l'intelligence parfaite, l'intelligence d'en haut, et non l'intelligence humaine, ou ce que l'homme pense qu'il est. Salomon savait qu'il était important que son fils fasse des choix, que son fils fasse des choix judicieux dans la vie. Et puis, il a compris le rôle puissant de son influence pour guider son fils dans cette sagesse. Et voici comment il l'expose, l'apôtre de Salomon. Si nous voulons exercer l'influence divine sur notre famille, nous devons commencer par prendre Dieu et sa parole au sérieux. Si on ne prend pas Dieu et sa parole au sérieux, on manque à quelque part de sagesse et d'intelligence spirituelle. Proverbe 1 et verset 7, alors l'apôtre plutôt Salomon le met comme ceci, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Le début de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, parce que ça vient d'en haut. Alors, les insensés méprisent. Alors, tous les grands scientifiques qui peuvent exister dans le monde aujourd'hui, qui font des choses extraordinaires, ceux qui rejettent Dieu sont des insensés aux yeux de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La crainte de l'Éternel est le commencement. Et le commencement de la science. Nous voyons souvent dans les proverbes un contraste entre la sagesse et la folie. Et ici, Salomon dit, « Mon fils, voici comment ne pas devenir un imbécile, dans un sens. » C'est ça qu'il est en train de dire. « Prends Dieu et sa parole au sérieux. » Au sérieux. Alors, comme des papas, sommes-nous vraiment attaché à Jésus-Christ ou vivons-nous dans l'ombre de notre foi? Les enfants reconnaissent notre ambivalence à chaque fois. Et si nous sommes ambivalents, nébuleux sur ce que Dieu signifie pour nous, sur ce que Christ signifie pour nous, alors nos enfants vont le comprendre, puis rapidement aussi. Donc à tous les papas et les grands-papas, nos enfants, nos petits-enfants attendent de nous que nous les dirigeons. Ils ont besoin de notre leadership. Alors faisons le bon choix de suivre d'abord le Christ et ensuite de vivre pour lui dans la crainte, dans l'amour de Dieu. Et ensuite, formons nos enfants à l'éducation et à l'avertissement du Seigneur. Un passage très approprié pour la fête des mères qui nous rappelle le souvenir de deux mères, Loïs et puis Eunice, femme de foi. Loïs était la grand-mère de Timothée et Eunice, la mère de Timothée, et qui ont laissé un héritage éternel à Timothée, parce que cette maman et cette grand-maman l'aimaient assez pour lui donner leur bien le plus précieux. Et le bien le plus précieux qu'ils pouvaient leur donner, c'était le don de la foi pour le salut. Et c'est ce qu'ils ont donné à Timothée. Paul mentionne Timothée comme son co-expéditeur de 6 de ses lettres. Et puis, il a également fait éloge de Timothée dans sa lettre aux Philippiens. Et Paul avait tellement confiance en la foi de Timothée que dans sa première lettre à Timothée, il l'appelle « mon vrai fils dans la foi, mon fils légitime ». Et on sait que c'était pas le fils biologique de l'apôtre Paul, mais c'était son fils légitime dans la foi. Timothée devint pour Paul ce que Barnabas ne pouvait pas devenir pour Paul. L'héritier de la mission de Paul. Et puis dans la dernière lettre de Paul à Timothée, écrite vers la fin de sa vie, alors il parle sans réserve, appelant Timothée « mon enfant bien-aimé ». Mon enfant bien-aimé. Loïs et Eunice étaient de véritables croyantes qui étaient cohérentes dans leur foi. Elles étaient authentiques, sans hypocrisie. Elles n'avaient pas ce que nous appelons parfois la foi environnementale ou dépendamment de ce qui se passe autour de moi. En d'autres termes, leur comportement n'a pas changé en fonction de l'environnement où elles se trouvaient à n'importe quel moment. Elles étaient la même femme de Dieu à la maison ou au travail ou au marché, peu importe. Elles ont vécu par la foi. Et Paul encourage Timothée, et c'est merveilleux ce qu'on regarde là, il encourage Timothée à se souvenir de ces précieuses leçons. Qu'il avait appris au pied de sa mère et de sa grand-mère. Il encourageait Timothée à se souvenir de leur cohérence, même durant les difficultés de la vie. Et Loïs et Eunice ne vivaient pas dans une situation qui était facile, et puis ils allaient le voir. Alors c'est ici que Paul Timothée a grandi dans un quartier qui était très difficile. Dans Actes chapitre 14, nous lisons la visite de Paul à Barnabas à Lystre, qui est au sud de Galatie. Et là, Ça, c'était lors de son premier voyage missionnaire que Paul a fait, parce qu'on sait que Paul a fait 3 voyages missionnaires, et ça, c'était son premier voyage missionnaire. Et c'est ici que Paul a guéri un boiteux. Et cet homme qui a été guéri a conduit les foules à penser que Paul était, et Barnabas, les deux, qui étaient les dieux grecs venus parmi eux, Jupiter et puis Mercure. Et c'était l'Istre, à cet endroit, qu'un groupe de Juifs d'Antioche et d'Icône qui ont gagné la foule. Et après avoir lapidé l'apôtre Paul, ils le traînèrent hors de la ville, le laissant comme mort. Et puis, la ville de Lystre était peuplée principalement de gentils, c'est-à-dire de non-juifs, et qui n'avaient pas de synagogue à Lystre. C'était l'environnement dans lequel Timothée a grandi. Et Timothée a grandi dans cet environnement entouré par la mythologie grecque, avec toutes ces idoles, où les Juifs zélés qui se sont opposés à Jésus par une violence extrême. Alors, ils vivaient dans un milieu de violence et rempli d'idoles. Et pourtant, la maman et la grand-maman de Timothée se sont développés une foi authentique dans un environnement qui était opposé, hostile à l'Évangile. Et la situation familiale de Timothée, c'était une situation inhabituelle pour son temps, parce que sa mère à Timothée était juive, mais son père était grec. Alors imaginez l'opposé. Il est fort probable que la mère et la grand-mère de Timothée aient été confrontées à de nombreuses difficultés dans l'éducation de Timothée. Et Timothée a grandi dans ce milieu-là. Mais cette mère et grand-mère étaient capables de donner cet enseignement de la foi, de donner sa vie à Jésus-Christ, et c'est ce que Timothée a reçu. Alors, comment faisons-nous pour développer une foi authentique comme Loïs et puis Eunice? Cette foi en Jésus, que nos enfants voient la différence dans notre façon de vivre par rapport au monde. Faisons-nous une différence éternelle dans leur vie? Est-ce que nous faisons vraiment une vraie différence dans la vie de nos enfants? En leur donnant un modèle de comment ils peuvent défendre, par exemple, leur foi auprès de leurs amis, de leurs camarades de classe, et ainsi de suite. Alors, si nous appelons Jésus notre Seigneur, parce que Jésus, il n'est pas juste le Sauveur. S'il est juste le Sauveur, on va avoir des problèmes. Il veut être le Seigneur de notre vie. Et pour être le Seigneur de notre vie, c'est lorsqu'on lui donne notre vie, qui nous sauve. Alors, il nous sauve, il devient sauveur, mais parce qu'il est sauveur, il est le maître aussi de ma vie. Nous devons être cohérents dans la lecture de la parole de Dieu, cohérents dans la prière, cohérents dans le culte, cohérents dans la communion fraternelle et cohérents dans nos dons. Et c'est ça qui est la vraie cohérence dans notre foi chrétienne. Une foi authentique et cohérente découle d'un désir croissant de vivre selon la parole de Dieu. Et la crainte de l'Éternel, c'est d'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole. Dans 2 Timothée, pensez que j'aurais pu mettre là tantôt, là, que je parlais que l'Ouest de la grammaire de Timothée. Alors voilà, 2 Timothée 3, 14, dis-toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Alors ça, c'est l'encouragement que Paul est en train de donner à Timothée. Hein? Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Il les a apprises de sa mère et de sa grand-mère, d'Ulysse et de Noïs. Et Paul l'encourage à demeurer ferme dans ces choses-là. Loïs et Eunice ont fait une différence éternelle dans la vie de Timothée parce qu'elles ont formé cet enfant à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, comment Loïs et Eunice ont connu le Seigneur? Nous ne savons pas. Mais elles connaissaient le plus grand cadeau qu'elles pouvaient offrir à leurs enfants. Et c'était la possibilité d'avoir la vie éternelle, et c'est ce qu'elles ont transmis à Timothée. Alors, comment faisons-nous pour développer une foi authentique en Jésus afin que nos enfants voient la différence dans notre façon de vivre par rapport au monde? Est-ce que nous faisons vraiment la différence éternelle dans leur vie? Si nous voulons qu'ils aient une foi authentique, alors nous devons être des modèles pour eux. Alors, tous les messieurs, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vos enfants, vos petits-enfants, pour ceux qui sont autour de nous, est d'aimer leur mère. D'aimer leur mère. Les mamans, l'une des choses les plus importantes qu'elles puissent faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur père. D'aimer leur père. Mais les parents, la chose la plus importante que vous pouvez faire pour vos enfants est de leur faire savoir que vous aimez Dieu plus que n'importe qui ou quoi que ce soit. Maintenant, je veux parler à Élisabeth. Pour les enfants, c'est notre point. Hein? Un proverbe que je vous laisse et qui indique que c'est un genre de partenariat entre papa et maman, une leçon de vie pour les enfants, va comme ceci. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Moi, j'aime ce verset-là. Le papa puis la maman est là, puis parle aux enfants ici. Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'instruction, l'enseignement de ta mère. Et cela, c'est une couronne pour ta tête. Exode chapitre 20 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et ça s'applique pour chacun de nous aussi. Tout s'applique chacun pour nous, ce qu'il nous a donné ici. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fait remarquer que ce commandement est le premier, avec une promesse ici. Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, tu vas être heureux, si tu veux vivre longtemps sur la terre, alors honore ton père et ta mère. Sinon, tu ne vivras pas longtemps. Tu vas avoir des problèmes et toutes sortes de choses. C'est la promesse que Dieu nous donne ici, dans ce passage-là. Paul a également, ordonne également aux pères d'élever leurs enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Alors ici, dans le premier chapitre des Proverbes, nous voyons Salomon donner la même exhortation en suivant les sages instructions des parents. Et cette suggestion est particulièrement poignante pour moi, parce que ça vient de Salomon. Bien que Salomon ait été béni par Dieu avec une sagesse incroyable, selon 2 Chroniques, chapitre 1, Salomon n'a pas toujours choisi de l'utiliser. Le livre de l'Ecclésiaste raconte comment il poursuivit beaucoup de choses autres que Dieu, et puis il les trouva vides et inutiles. Et dans son livre, l'Ecclésiaste, voici ce qu'il dit ici. C'est Salomon qui parle. Il dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici tout est vanité et poursuite du vain. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors imaginez, grand homme, l'homme le plus intelligent qui a jamais existé, le plus grand, possédait tout. Et comme qu'il dit ici, tout ce que son cœur désirait, eh bien, il prenait plaisir à cela. Tout. Et puis, à la fin de sa vie, c'est là qu'il écrit ce livre, l'Ecclésiaste, pour démontrer que tout est vanité sur la terre. Que tout est vanité. C'est la poursuite du vent. Hein, on fait des projets, et puis, poursuite du vent, qu'il nous dit. Et finalement, Salomon est arrivé à la conclusion que suivre la volonté de Dieu est de loin le but le plus important de notre vie. En décrivant dans la conclusion de son livre, c'est comme ça qu'il termine son livre ici, il dit, écoutons la fin du discours, la fin de son discours, crains Dieu et observe ses commandements. Et c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera ton œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous, ce qu'on regarde, c'est un peu comme Salomon. On regarde à notre personne. C'est le « je », moi, hein, qui est important. Et puis, je veux prendre soin du « je », de moi et personne d'autre. Et ça se reflète dans ma vie de tous les jours. Et qu'est-ce que ça m'amène? Ça m'amène des casse-têtes, la dépression, puis un paquet de choses. Mais ce que j'ai besoin de faire, c'est craindre l'Éternel, d'observer ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. En jugement. Alors voilà, c'est pour la fête des mamans. Alors on aimerait juste avoir des roses. Et on a amené quelques roses ce matin pour les mamans. On a nommé quelques-unes à l'écran.